Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde à Radio Free Gaza pour notre 17e épisode déjà. Le temps va vite. Voilà, donc aujourd'hui, comme participant de la délégation belge, nous avons Navit qui est sur son bateau et qui nous attend pour l'appeler. Et après, il y aura un entretien avec Jonathan Piron qui va nous parler de l'impact environnemental de la guerre au Gaza. Mais d'abord, un appel Navit.
Hello.
Bonjour Navit.
Bonjour, ça va Hans?
Ça va très bien. Et toi, je vois que tu n'as pas de mal de mer aujourd'hui.
Comment non, ça va beaucoup mieux là.
Oui?
T'en as eu... Ça sent beaucoup mieux la première fois.
Ok, mais parce qu'avant, tu as eu le mal de mer.
Complètement, oui. Okay. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était les premiers jours, la mer était un peu plus costaud et voilà. Ça n'allait pas. Mais là, aujourd'hui, ça va, il fait très beau, la mer est calme et mon corps s'est habitué à la mer.
Ah bah, tant mieux. On nous a dit que c'est une énergie particulière de naviguer dans un flottille. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça, clairement, je n'étais pas prêt pour ça, je pense. C'est assez magnifique. Et je me suis réveillé et puis j'ai vu la première fois la flottille, vraiment à l'horizon, c'était quelques points. C'est le bateau sur lequel j'étais la dernière fois, on était toujours un petit peu en retard par rapport aux autres. Donc, j'avais jamais vu la flottille ensemble, à part le jour du départ. Et là, il y a deux jours, quand on a démarré de Tunisie, je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin et j'ai vu à l'horizon quelques points. Et puis, petit à petit, on les rattrapait. Et là, j'ai fait, ah voilà, ça y est, c'est la flottille. Et là, passer ces journées comme ça avec des bateaux autour de toi, qui naviguent plus ou moins à la même vitesse et tu sais qu'ils vont au même endroit, tu sais qu'ils vont là pour le même combat. C'est assez magique, c'est assez touchant et assez historique. Comme... Après, évidemment, ça pose aussi des questions de coordination qui sont particulières, où bah, on navigue pas seul, on navigue avec une flottille. Et donc, on reçoit aussi des instructions qui disent bah, « là, maintenant, on te capte vers telle direction, maintenant, on va prendre cette vitesse-là, etc. »
Oui, ouais, tu dis que dans ton autre bateau, quand tu étais sur l'autre bateau, en fait, tu as fait un peu le tour des bateaux là à Tunis, non?
Oui, c'est-à-dire que mon précédent bateau a eu des problèmes techniques. Et on pensait pouvoir redémarrer de Tunis avec les autres. Et on nous a dit que ce serait pas possible, parce qu'en fait, le bateau ne serait pas prêt à temps. Et donc, j'ai dû chercher un autre bateau. Et donc, la dernière fois, j'étais dans un bateau qui s'appelait Isabella. Et là, maintenant, je suis dans Catalina.
Pardon, j'ai pas bien compris.
Sur le tracker en ligne, là, vous allez voir que Isabella est encore tristement bloquée en Tunisie et ne bougera probablement pas de là. Ou alors ils vont le rapatrier en Espagne, je sais plus.
Ok. Et voilà, donc j'imagine que maintenant vous attendez la suite. Quelle est l'ambiance à bord?
Tout le monde est très très. Tout le monde a le moral là. Je pense qu'on a eu quelques jours où c'était plus compliqué parce que tout le monde était bloqué en Tunisie. Il y a eu des raisons administratives, il y a eu des raisons techniques. Donc l'ambiance était vraiment très fébrile. Et là, on a pris la mer et on est tous motivés. Alors évidemment, on sait où on va. Hein. Il y a la crainte de savoir où on va. Mais on a des entraînements tous les jours à bord. On se prépare psychologiquement, on se prépare logistiquement. Mais tout le monde est motivé. Et puis là, d'ici, je pense, demain ou après-demain, eh ben, on va rejoindre la partie italienne de la flotte. Et ça va être, à mon avis, très impressionnant aussi. Donc, vraiment, on a hâte.
Oui, il y a les bateaux aussi qui arrivent de Grèce, non?
Exactement. Je ne sais pas s'ils arrivent en même temps que les bateaux italiens. Je ne pense pas, parce qu'en fait, la Grèce est plus avancée. Donc, à mon avis, là, demain après-demain, on va rencontrer les Italiens. Et plus loin encore sur le trajet, on va rejoindre, enfin, les Grecs vont nous rejoindre.
Oui. Et quand est-ce que vous prévoyez d'arriver à Gaza?
Alors, les dernières estimations, c'était 8 à 12 jours. Je ne peux pas être plus précis, quoi.
Ouais, donc,
la mer,
ouais, donc quelque part la semaine prochaine.
Oui, ouais. On espère, oui.
Ouais, ouais, ok. Voilà. Et est-ce que tu as encore un message pour les gens qui t'écoutent ici en Belgique, des personnes de la délégation ou d'autres personnes en Belgique?
Bah, j'ai un message pour tous les gens qui suivent la flottille. Alors, on a la chance d'être très suivis, on a la chance d'avoir une couverture médiatique. Et c'est peut-être un piège aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les médias qui ne parlaient pas de Gaza sont maintenant en train de parler de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on continue à parler de Gaza, que tous les yeux soient braqués sur Gaza. Hier soir, il y a eu l'intervention la plus meurtrière de l'armée israélienne, où en 20 minutes, ils ont mené 37 frappes qui ont principalement assassiné des enfants. Israël a annoncé la phase finale de la conquête du rasage ethnique de Gaza. C'est ça qu'il faut regarder. Alors évidemment, nous, on a besoin que les gens suivent nos radars, etc. Mais on fait ça pour la Palestine. C'est la Palestine qu'il faut regarder. Il faut continuer à faire pression sur nos gouvernements. Il faut continuer à pousser nos gouvernements à non seulement, évidemment, demander le passage de la mission humanitaire, mais surtout d'imposer des sanctions contre Israël, de couper ses liens avec l'État palestinien.
Oui, oui, et en plus, en fait, aujourd'hui, une commission des Nations Unies a déclaré que ce que Israël fait à Gaza est bel et bien un génocide.
C'est pas trop tôt, hein.
Ouais, c'est, oui, absolument, tu as tout à fait raison. Ok. Ben, merci beaucoup, Navid.
C'est un climat particulier, oui, où effectivement, on se rend compte que même les grandes puissances qui jusque-là soutenaient Israël, comme la France de Macron, le Royaume-Uni de Starmer, l'Allemagne, et même en fait cette espèce de fasciste de Ursula von der Leyen, qui commence à retourner leur veste en disant bon, là on a vraiment en train de griller toutes nos cartes, on va peut-être devoir prendre des mesures qui ne sont clairement pas suffisantes. On a besoin de beaucoup plus, on aurait eu besoin beaucoup plus tôt, évidemment. On n'oubliera pas de sitôt, et j'espère qu'on poursuivra en justice toutes ces personnes qui ont du sang sur leurs mains et qui ont été complices de cette crime de guerre. Mais on voit quand même que le vent est en train de tourner, que la pression populaire a un impact, que la flottille a un impact, et qu'il faut continuer, quoi. Dans le cas de la Belgique, j'espère vraiment qu'on arrivera à faire tomber ce gouvernement arisonien qui, d'un côté, mène la guerre sociale en interne et de l'autre côté, soutient des crimes de guerre sans honte. Donc le boulot n'est pas terminé, le boulot ne se terminera pas non plus avec la mission de la FETI. On est juste un engrenage dans cette mission.
Oui, tout à fait. Ben, tu peux être assuré qu'ici en Belgique, avec la délégation, que ça travaille jour et nuit là pour l'instant, pour essayer de mobiliser et d'avoir un impact maximal de la FETI, par exemple. Donc voilà, tout le monde met son petit fier à l'édifice.
On est vraiment très fiers du boulot que vous faites. On est vraiment, nous, là, pour l'instant, bon, on a presque le boulot facile, hein, on est sur la mer. On a un peu la charge mentale de ce qui va se passer, mais dans les faits, le vrai boulot, là, il est fait dans le background. C'est vous sur le terrain, c'est vous derrière les ordi qui sont en train de faire le gros du boulot, quoi.
Oui, et c'est vous qui prenez les risques.
Bon, on se partage le travail comme on peut.
Oui, ok. Ok, ok. Ben...
Merci à vous. Merci vraiment à toutes ces personnes qui sont en train de travailler nuit et jour. On ne se rend pas compte. On ne les interviewe pas, leurs photos ne passent pas dans la presse, mais au fond, nous, nous serions montés sur un bateau s'il n'y avait pas cette armée de bénévoles, cette armée de gens d'administratifs, cette armée de gens de com et de médias à l'arrière.
Ben, merci beaucoup. Et merci à toi aussi.
Merci, à très bientôt, j'espère.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, plus Palestine.
Voilà, Navid. Il est bien en forme, c'est chouette. Donc, on continue avec l'entretien de la journée. Aujourd'hui, c'est, nous avons discuté avec Jonathan Piron de Ethiopia sur l'impact environnemental de la guerre au Gaza. Bonne écoute.
C'est interdit d'être ici. Hein.
Bonjour, Monsieur Piron.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en bref?
Donc, je suis Jonathan Piron, je suis historien, chercheur pour Ethiopia et pour le GRIP. J'enseigne aussi les relations internationales contemporaines et je suis spécialiste du Moyen-Orient.
Oui. Ben voilà, mais si on parle de Gaza, on parle du Moyen-Orient. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, les photos satellites de avant octobre 2023, et aujourd'hui, on voit qu'il y a un impact incroyable, en fait, sur le territoire. Il est méconnaissable.
Tout à fait.
Oui.
Et donc, c'est un élément, en fait, sur lequel on parle beaucoup dans les médias, mais dont les effets directs, indirects, à court terme et à moyen terme sont importants. Et ils impactent aussi durablement, en fait, l'avenir de Gaza. Donc c'est vrai qu'ici, quand on regarde l'ampleur des dévastations, on est impressionné par le fait que Gaza est aujourd'hui un champ de ruines. On a des informations qui existaient encore il y a quelques mois sur un pourcentage élevé des destructions de bâtiments civils. Mais maintenant, il faut aussi bien prendre en considération que ces destructions impactent profondément l'environnement de Gaza et pour une temporalité qui va même aller au-delà du conflit, quand ce conflit s'arrêtera, et on espère que ce conflit s'arrêtera le plus vite possible, que le génocide aussi va s'arrêter. Mais il faut bien se rendre compte aussi que l'avenir de Gaza est aujourd'hui clairement mis en danger, bien au-delà de la guerre, par la profonde déstabilisation de l'environnement, à la suite notamment des destructions réalisées par l'armée israélienne.
Oui, donc il y a la destruction directe et à l'impact... par exemple, des munitions qui sont utilisées, qui sont fort toxiques, plein de choses. Mais il y a aussi des dégâts qui sont causés, notamment aux infrastructures.
Et,
par exemple, les égouts, des choses comme ça. Donc, il y a tout un enchaînement d'effets et d'impacts qui ne sont peut-être pas des impacts directs, mais qui continuent.
Tout à fait. En fait, quand on étudie les impacts environnementaux d'un conflit, il y a toute série de critères qui peuvent être pris en considération. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, en fait, a développé d'ailleurs une méthodologie qui permet d'analyser ces différents impacts. Alors, les plus connus, ce sont les impacts primaires, c'est-à-dire comment les bombardements et les destructions affectent directement l'environnement. C'est notamment, évidemment, la destruction des buildings. Les débris, c'est aussi la destruction des infrastructures qui sont nécessaires à la vie dans Gaza. Par exemple, tous les systèmes de purification de l'eau, tous les systèmes sanitaires, les systèmes d'égouts, les puits aussi qui permettent aux aquifères en fait, de rendre de l'eau potable.
Ouais.
C'est aussi évidemment la destruction des zones agricoles et donc tout ce qui impacte en fait, l'agriculture et l'autonomie, aussi la souveraineté alimentaire de Gaza. Et ici, on sait en fait que, par exemple, dans les chiffres qui nous sont à disposition, donc qui datent de l'année dernière parce qu'il est difficile d'avoir des mises à jour, mais rien que sur les installations d'eau et d'assainissement de Gaza, il y avait à peu près 85% en fait des installations qui avaient été totalement ou partiellement détruites.
Ouais.
Et donc, on voit déjà en fait que ça impacte durablement la survie même en fait de l'entité. Dans les surfaces agricoles, l'année dernière, encore une fois, les chiffres mettent en évidence que 67% des terres cultivées de Gaza avaient été endommagées. Et on voit aussi que plus de la moitié des puits ou des serres ont été détruites. Et donc, l'avenir de Gaza est hypothéqué, de même que son présent, parce que, évidemment, dans ces situations-là, quand vous n'avez plus accès à l'eau potable, vous vous retrouvez alors dans des régions qui ont difficilement accès à l'eau, où l'eau est polluée, cela crée alors aussi beaucoup de maladies. Mais également, pour l'avenir de Gaza, cette reconstruction est finalement mis sous hypothèque parce que cela nécessite aussi toute série de moyens que pour le moment les Gazaouis n'ont pas, et n'ont pas eu d'ailleurs dans le passé du fait de l'embargo. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut prendre en question, ce sont les impacts secondaires et les impacts tertiaires.
Oui.
Et donc, dans les impacts secondaires, en fait, c'est notamment tout ce que le conflit créé comme situation indirecte en lien avec l'environnement. Donc les destructions, les migrations forcées, aussi les déplacements de la population à l'intérieur de la bande de Gaza amènent à ce que la population migre en fait dans ce qui est présenté comme étant des zones humanitaires, mais qui sont en fait soumises notamment au bombardement, mais donc dans des endroits qui ne sont pas prêts à recevoir un tel afflux en fait de population. Et on voit ainsi que, notamment du côté des captages d'eau, les maigres captages d'eau qui restent encore sont pris d'assaut en fait par la population qui tente de survivre, avec donc des installations qui ne sont pas du tout adéquates. On voit aussi que dans les impacts secondaires, il y a toute une série de réappropriations qui se font en fait par des groupes mafieux, parce qu'en effet la gouvernance a été complètement détruite aussi par les attaques israéliennes, et notamment Jean-Pierre Fidu avait mis ça en évidence. Il y a aujourd'hui des bandes armées qui sont en train de s'approprier justement les quelques terres agricoles qui restent ou les quelques puits d'eau qui sont encore disponibles pour les revendre en fait à des prix prohibitifs, mais pour exister aussi une nouvelle forme de gouvernance en fait qui remplace la gouvernance publique qui existait auparavant à Gaza. Également, alors dans un dernier impact qui est à bien comprendre, c'est que les opérations israéliennes ont aussi détruit toute une série de bâtiments municipaux dans lesquels se trouvait alors ce qu'on appelle le cadastre, le tabou en fait du côté de Gaza. Et pourquoi est-ce que ça a un impact environnemental fort? C'est que dans l'hypothèse aussi d'une reconstruction, dans laquelle cette reconstruction serait assurée, où les Gazaouis pourraient revenir sur leur territoire et auraient des moyens pour reconstruire le territoire, en l'absence de cadastre, certains agriculteurs, certains propriétaires, en fait, ne pourront plus faire valoir leurs droits. Et on se retrouve dans cette situation aussi où de nouveaux conflits, en fait, vont éclater par la suite, liés justement à l'environnement, parce que le cadastre ayant disparu, la souveraineté alimentaire, le droit des propriétaires, le droit des agriculteurs n'est plus assuré. Et on voit donc que de nouvelles tensions, en fait, pourraient arriver, étant, en fait, peut-être aussi des éléments qui pourraient recréer un nouveau conflit, en fait, entre les populations gazaouis à l'avenir. Et donc, on voit que tous ces éléments sont, en fait, aujourd'hui en train de durablement, de profondément, en fait, détruire la bande de Gaza dans des niveaux, d'ailleurs, qui sont inimaginables. On pense qu'il faudrait, en fait, à l'heure actuelle, des décennies pour reconstruire Gaza, pour permettre, en fait, de retrouver Gaza tel qu'on l'a connu avant les opérations israéliennes, mais on sait aussi que l'embargo israélien est toujours présent, et donc les scénarios sont assez pessimistes dans les moyens qui sont disponibles aujourd'hui sur l'avenir de la bande de Gaza.
Oui, en plus un environnement, ça n'arrête pas à une frontière ou à une mur, et donc j'imagine que les impacts environnementaux sur Gaza ne resteront pas limités à Gaza.
Tout à fait, et donc ça va aussi impacter les territoires proches. Et il faut aussi prendre en considération le fait que les dérèglements climatiques sont un autre facteur qui met en danger également la bande de Gaza et la région. On sait que le Moyen-Orient se réchauffe très vite et qu'il y a des cycles de sécheresse alors qui apparaissent de manière beaucoup plus régulière. Il y en a toujours eu dans l'histoire du Moyen-Orient, mais on voit qu'avec les dérèglements climatiques, ces cycles de sécheresse se rapprochent. Et donc que les nappes phréatiques en fait n'ont pas le temps de se recharger que pour supporter en fait la sécheresse suivante. Dans cette situation-là, si Gaza n'est pas les moyens justement de reconstruire, mais aussi de faire face en fait à ces dérèglements, les impacts directs et indirects en fait vont être encore plus intenses dans les décennies à venir, mettant encore une fois en danger la survie de la population.
Oui, mais j'imagine par exemple les nappes phréatiques, si elles sont polluées, elles ne sont pas polluées que pour Gaza, elles sont aussi polluées en Israël.
Et donc c'est d'ailleurs aussi un élément qui est assez, on peut dire, surprenant dans ce drame qui arrive, c'est que Israël s'impacte lui-même en fait avec ses opérations, parce qu'en effet, à partir du moment où vous n'avez plus de système d'évacuation des eaux usées, à partir du moment aussi où vous avez toute une série de débris toxiques qui se retrouvent en fait soumis aux aléas du vent et qui donc vont toucher en fait le territoire israélien proche, c'est aussi en fait Israël qui doit supporter le choc et le coût en fait de ses propres offensives. Parce qu'en effet, il y a des connexions qui existent entre la bande de Gaza et Israël. Il y a des nappes phréatiques qui sont connectées. Et on sait d'ailleurs que les Israéliens vont allègrement pomper dans les nappes phréatiques qui ne leur appartiennent pas. On sait aussi que les eaux usées vont sur le littoral plus haut. Et donc, c'est un coût financier aussi environnemental qui va être supporté également par la population israélienne qui, ici, se retrouve donc aussi confrontée aux décisions complètement scandaleuses, en fait, qui sont prises par le gouvernement d'extrême droite en place à l'heure actuelle.
Oui. Et à votre connaissance, quand on parle de paix, quand on parle de négociation, d'accord de paix, dans quelle mesure est-ce qu'on prend en compte l'environnement dans ce genre de règlement?
Alors, on voit maintenant de plus en plus dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans les résolutions qui sont votées et mises en place pour faciliter les accords de paix, que la dimension environnementale est présente, notamment dans la reconstruction d'un cadastre, dans aussi la redistribution juste, en fait, des éléments naturels, dans la réoccupation durable et équitable des zones agricoles. Et donc, il y a une trentaine d'années, c'était des éléments qui n'étaient pas spécifiquement ou systématiquement présents dans les résolutions de paix. Maintenant, ça l'est de plus en plus. Donc, il est certain que si un jour un accord de paix durable est mis en place avec des garants, justement, neutres et extérieurs pour vérifier à son application, que ces éléments, en fait, environnementaux soient présents. Maintenant, il ne faut pas oublier de prendre en considération la situation particulière dont la bande de Gaza se trouve. C'est qu'il est tout à fait possible qu'on ait une paix qui soit imposée,
oui,
avec un nettoyage ethnique aussi, avec tous les dangers aussi que ça représente dans la survie même, en fait, des gazouilles sur leur territoire. Mais on peut aussi se retrouver dans un scénario où une partie de la population est maintenue dans certaines zones, en fait, de la bande de Gaza, mais sans avoir cette protection internationale, parce que cette paix sera imposée finalement de manière unilatérale par Israël. Et dans cette situation, on pourrait se retrouver, comme on le voit d'ailleurs aussi en Cisjordanie, avec notamment des nappes phréatiques qui sont pompées de manière illégale par les Israéliens et qui mettent alors en danger justement la survie de ces populations. On sait aujourd'hui que, en théorie, les territoires palestiniens peuvent être autonomes, notamment du point de vue de leurs ressources en eau, mais que les pompages illégaux qui sont réalisés par les colons israéliens ou par, en fait, aussi l'administration israélienne mettent en danger leur survie. De ce point de vue-là, la population palestinienne, d'ailleurs, consomme beaucoup moins d'eau, en fait, que la population israélienne parce qu'elle a moins accès à l'eau. Et donc, on pourrait se retrouver dans cette situation où le territoire de Gaza ne dispose pas, justement, des ressources suffisantes parce que celles-ci sont pillées, sont contrôlées, ou que l'État d'Israël empêche aussi une reconstruction dans laquelle cette redistribution de ressources soit clairement effectuée. On voit d'ailleurs aussi depuis les années 2010 que l'embargo qui est exercé par Israël contre la bande de Gaza empêche toute une série de biens de base de pouvoir passer les postes de contrôle. Et donc, il ne serait pas du tout, en fait, étonnant que par la suite, cet embargo soit maintenu, voire peut-être même renforcé, et que donc la reconstruction soit encore beaucoup plus compliquée, notamment aussi sur les enjeux environnementaux.
Ok, ben, merci beaucoup, Monsieur Piron.
Je vous en prie.
Et à très bientôt, j'espère.
Bonne journée à vous, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, c'était l'entretien avec Jonathan Piron. Donc, ça veut dire qu'on touche à la fin de notre émission. Demain, nous aurons un entretien avec Keda Djanaralieva, qui est chercheuse à l'ULB et qui va nous parler du droit international. Et on va lui poser la question, par exemple, si jamais Netanyahou ou un de ses complices mettent le pied dans un pays et on veut l'arrêter et on veut le mettre derrière les barreaux, comment ça fonctionne concrètement? Voilà. Et donc, elle va nous expliquer ça demain. Voilà, il ne me reste que de dire au revoir tout le monde. Au revoir, Joe. Merci de faire la technique et à demain.